écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Le principe du compromis politique est en danger, les gouvernements de coalition, ça ne séduit plus. Le Soir a pu consulter une étude menée par des chercheurs de l'ULB, on vous explique tout dans un instant. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Selon une étude de l'ULB, le compromis politique si propre à la Belgique est aujourd'hui menacé par la polarisation affective, c'est-à-dire l'expression passionnée et parfois acharnée de ses idées en opposition à celles des autres. Les électeurs sont donc plus divisés, ne débattent plus en s'écoutant et soutiennent de moins en moins l'idée d'un gouvernement de coalition. Sara Saadi Garcia a réuni Bernard de Monti, chef du pôle politique, et Marine Buisson, chef du pôle idée, pour évoquer les résultats de cette étude et en tirer quelques conclusions en vue des prochaines élections.
Bonjour Marine et bonjour Bernard.
Bonjour Sarah.
Bonjour Sarah.
Vous avez travaillé tous les deux sur une étude de l'ULB traitant de la polarisation affective en Belgique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors c'est un peu barbare comme expression, mais donc la polarisation affective, c'est la tendance pour les électeurs qui sont proches d'un parti à apprécier les électeurs de leur propre parti et à détester les électeurs des autres partis. Donc en fait, ça veut dire que si par exemple je suis militante encartée au MR, je vais avoir un peu de mal à nouer du dialogue avec mon voisin qui milite pour écolo.
Et cette polarisation est particulièrement visible si on veut prendre quelques exemples chez les extrêmes, parce que par exemple dans l'extrême gauche, le PTB, les électeurs du PTB aiment leur parti beaucoup plus que les autres, mais rejettent les autres avec le plus de force, tout comme le reste de la population d'ailleurs qui rejette le PTB particulièrement violemment. Donc voilà, on constate par exemple chez ce parti-là un côté clivant qui se retrouve dans notre enquête.
Et comment peut-on expliquer justement ce clivage de plus en plus intense qui est commun finalement à toutes les démocraties occidentales aujourd'hui, ou presque?
Alors, il y a un exemple qui est intéressant, mais on va devoir aller aux États-Unis. Il y a donc deux grands camps politiques historiques, les démocrates et les républicains. Et on a constaté depuis l'élection de Donald Trump, donc quand il s'est fait élire, c'était en
2016,
qu'il y a eu une crispation dans le camp républicain et dans le camp démocrate qui ont eu tendance à se détester beaucoup plus qu'avant et à avoir de plus en plus de mal à dialoguer. Il y a plusieurs raisons à ça, mais une des raisons, c'est la violence du discours politique. Et quand on a un leader qui va être très tranché, qui va donner des opinions qui sont très polarisées, et ben finalement les électeurs, les militants, ils vont tendance à eux-mêmes adopter les mêmes manières de communiquer que leur leader.
On se concentre ici sur la Belgique, qui est une terre politique très particulière. Cette polarisation affective grandissante représente-t-elle un danger pour la culture du compromis si propre à la Belgique et plus largement pour l'esprit de coalition?
D'abord, il faut constater, pour peut-être faire le lien avec ce que Marine disait sur la Belgique, que ces dernières années, le discours politique est devenu beaucoup plus violent chez certains leaders. Enfin, violent ou en tout cas offensif, on va dire. Et ça peut aller jusqu'à la violence verbale. On a par exemple des personnalités comme Raoul Edebaut, comme Georges-Louis Boucher qui se sont illustrés, ou Théo Franken un peu avant, qui se sont illustrés par une nouvelle culture politique où on attaque l'adversaire plus à dominem qu'avant. Donc on a ce contexte-là qui peut effectivement alors après poser des difficultés quand il s'agit de former un gouvernement.
Mais en fait, c'est le côté de ce que tu n'es pas, ça va définir ce que moi je suis. Ça veut dire que les gens vont davantage se définir en fonction d'une aversion par rapport à un groupe que par rapport à l'amour de leur propre groupe. Et ça, les leaders politiques en Belgique, comme vient de le dire Bernard, ont eu tendance à jouer beaucoup là-dessus. Et donc en fait, ce qui est compliqué, c'est que ça absorbe un peu toutes les voix plus modérées qui finissent un peu noyées dans le débat, alors qu'en Belgique il y a une tradition, justement on est connu, notre diplomatie est connue pour être la diplomatie du compromis, du dialogue, de l'ouverture, et on travaille avec des coalitions, on travaille avec plusieurs partis, et donc plus les gens sont polarisés, plus les gens sont virulents, plus les gens sont assertifs, agressifs, forcément ça tue la discussion, ça tue le compromis, et donc ça devient de plus en plus difficile de créer des coalitions.
Et on le voit particulièrement pour l'instant en Flandre, où les deux partis les plus importants dans les sondages sont deux partis particulièrement clivants, surtout pour le premier d'entre eux qui est le Vlaams Belang, juste derrière la NVA. Et pour illustrer encore ce que dit Marine, le centre a dégringolé en fait en Flandre, en dessous des deux partis clivants. On a tous les autres partis en dessous, ce qui pose évidemment de grandes questions pour la formation du prochain gouvernement fédéral, où on risque d'avoir deux partis clivants au nord qui dictent une loi qui ne sera pas nécessairement la loi du compromis. Donc voilà, ça illustre bien que le côté clivant monte, particulièrement en Flandre, et complique les majorités. Côté francophone, ça reste encore en construction. On ne sait pas très bien quelle direction ça va prendre, mais on voit quand même que le PTB monte de plus en plus et pourrait peut-être un jour, lui aussi, être tellement grand qu'on n'arrive plus à former des gouvernements côté wallon et bruxellois.
Et ça se retrouve aussi dans le soutien des électeurs, parce que les électeurs qui ont un niveau de polarisation affective plus élevé, ils vont être moins enclins à soutenir l'idée de gouvernement de coalition en général, et ils auront plus envie d'un leader, d'une leaduse forte, plutôt que de cette culture du compromis et de plusieurs partis qui se mettent d'accord pour gouverner.
Vous l'avez dit, en fait, c'est un peu l'adhésion par le rejet, mais est-ce que c'est aussi un peu lié peut-être à cette culture du buzz qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux?
Disons que ça ne nourrit pas la nuance, en tout cas, et que la plupart des gens, que ce soit des politiques ou que ce soit des citoyens, le disent depuis longtemps. Ça devient de plus en plus compliqué d'avoir de la nuance, en fait. Et la nuance, c'est aussi ce qui permet de ne pas être polarisé. Et les réseaux sociaux, en plus de ça, il y a un côté anonymat, finalement, qui fait qu'on peut se lâcher, tout dire, sans avoir peur des conséquences. Et donc, je pense qu'en fait, la polarisation serait là sans les réseaux sociaux, mais que les réseaux sociaux, c'est un carcan parfait
pour... C'est un accélérateur. Ouais.
Exactement.
Et avec le règne de la petite phrase qui explique peut-être que les partis centristes qui... typiquement ont des discours plus nuancés, moins clivants, avec moins de petites phrases, sont en grand éclat. Alors c'est l'œuf et la poule, est-ce que c'est les réseaux sociaux qui ont provoqué ça, ou est-ce que c'est une société plus dure qui amène à ce que les outils médiatiques soient eux aussi des réceptacles de petites phrases et de propos clivants? Ça, c'est une question impossible à...
Seule la poule le sait.
Exactement.
Dans cette étude, on a aussi des chiffres, tout un tas de schémas dont certains montrent le niveau de polarisation du débat politique sur le territoire. Marine, vous êtes juste aller sur le terrain pour voir de vos propres yeux cette fameuse polarisation. Où êtes-vous allé et qu'avez-vous pu constater?
Alors, ce qu'on a vu grâce à la carte qui a été préparée par les experts de l'ULB, c'est qu'il y a deux zones, donc autour de Couvain et autour de Dinan, qui sont très différentes. C'est-à-dire que la région de Couvain est une des plus polarisées sur la carte. La région de Dinan est une des moins polarisées. Donc, on s'est demandé si effectivement sur le terrain ça se ressentait. La vérité, c'est que pas vraiment. Ce qui se ressent surtout, c'est que les gens ont une défiance globale envers le politique, qu'ils ont une espèce de lassitude du système de coalition, parce que de toute façon, ce qu'ils expliquent, c'est que s'ils votent pour un parti et que le parti fait un bon résultat mais qu'il ne se retrouve pas dans la coalition, il y a une espèce de crise de confiance. Hein, à quoi bon voter si mon parti ne se retrouve pas là alors qu'il a de bons résultats? Il y a ça, et il y a aussi, ce que j'ai constaté, c'est que globalement, il y a un désintérêt, ce qui est, ma foi, un peu triste. Mais la polarisation en soi, on la retrouve. Tout le monde en parle via les repas de famille sont beaucoup moins détendus, effectivement le bourgmestre de Couvain par exemple explique que les conseils communaux sont un peu plus péchus qu'avant, que c'est plus compliqué d'essayer de faire de la médiation entre citoyens. Donc c'est difficile de se dire que cette étude là on voit vraiment les conclusions sur le terrain, mais en tout cas ce qu'on voit, c'est que il y a un désintérêt et une espèce de désillusion de la politique.
En gros, c'est pas parce qu'on se polarise au niveau de ses opinion qu'on n'est plus politisé.
Non, ça c'est certain.
Cette polarisation des idées, est-ce une bonne chose justement selon vous pour la démocratie? Est-ce que c'est sain d'avoir des débats passionnés en famille ou entre amis et des idées très tranchées, ou est-ce qu'au contraire, en criant fort, est-ce qu'on masquerait pas la voix des plus modérés?
Ce que dit donc Olivier Klein, qui est professeur de psy à l'ULB et qui a contribué à apporter un autre éclairage à l'enquête, c'est que la polarisation en soi, c'est pas une mauvaise chose en politique. En fait, c'est même plutôt normal d'avoir des blocs qui sont opposés. Ce qui est plus compliqué, c'est quand il n'y a plus que ça, en fait, et que les partis politiques et les personnalités politiques jouent sur cette polarisation du nous contre eux pour finalement engranger plus de soutien au lieu de trouver des ponts ou en tout cas des solutions entre les gens. La polarisation peut être négative si on est toujours dans l'opposition à l'autre parti, à l'autre groupe, au lieu d'être dans la construction.
C'est un peu comme une bonne dispute, en fait. Se disputer, ça peut être utile, mais à un moment donné, il il faut trouver une solution ensemble. Et c'est peut-être la deuxième partie qui commence à faire défaut en soi. Effectivement, se disputer, dire qu'on veut limiter les allocations de chômage dans le temps ou qu'au contraire, on veut aider les gens qui ne parviennent pas à trouver un travail, c'est sain à partir du moment où on ne reste pas campé sur ces deux positions-là et qu'on trouve finalement un compromis pour arriver à une solution ensemble. Et on a toujours eu des confrontations d'idées en Belgique, c'est très bien, mais on arrivait à ce fameux compromis à la belge en fait. Et le grand enjeu des mois qui viennent, et on le sent déjà pour l'instant, par exemple dans la Vivaldi qui se dispute beaucoup mais qui crée peu d'accords, ben l'enjeu pour 2024, c'est vraiment d'arriver à continuer dans ce paysage politique fragmenté, à arriver à trouver des solutions pour les citoyens, pour qu'ils ne deviennent pas eux-mêmes encore plus furieux, pour alimenter à nouveau cette polarisation.
Donc c'est une responsabilité des politiques aussi de réduire cette polarisation et d'inciter les gens à être un peu plus ouverts. Ils sont responsables finalement.
Bah, disons que la polarisation est utile quand elle nourrit le débat et que, comme le disait Bernard, quand elle parvient à créer, à susciter de l'intérêt et donc du compromis. Et évidemment que le politique a une responsabilité, ça c'est clair. Mais je crois aussi que les citoyens ont eux-mêmes une responsabilité dans le sens où le politique c'est pas non plus le modèle absolu pour communiquer et pour avoir des opinions. On peut aussi essayer de se remettre un petit peu en question dans la manière dont on agit sur les réseaux sociaux ou dont on débat. C'est le bourgmestre de Couvain aussi qui expliquait ça. Il y a une espèce de lacune de bienveillance, entre guillemets, entre les citoyens dans la manière dont ils se parlent. Donc, bien sûr que le politique a une responsabilité, mais ça ne doit pas enlever la responsabilité du citoyen.
Et pour l'instant, le politique récupère un peu l'antipolitisme quelque part. Ils sentent que les gens sont fâchés, mais au lieu d'essayer de trouver des solutions et de l'apaisement, eux-mêmes récupèrent l'antipolitisme et donc il y a plusieurs hommes et femmes politiques qui rejettent la classe politique, en fait, typiquement le Vlaams Belang, le PTB. Moi, je ne fais pas partie de cette caste-là, alors que c'est faux, ce sont aussi des hommes et des femmes politiques. Quelque part, ils récupèrent la colère en créant une nouvelle, au lieu de tenter, ce qui devrait être normalement leur rôle, de gérer l'État et de trouver des solutions, en fait, pour calmer cette colère.
Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.